trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Grégoire.
À vos côtés, Thierry Leclerc, le président et cofondateur d'Alpha Jet Fair Investors. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là et merci à Anthony Morlet, la Vidali, nous accompagne également. Bonsoir Anthony.
Bonsoir.
Vous êtes économiste chez Rexecode, vous suivez la France spécifiquement désormais. Anthony, vous êtes également membre de l'association BSI Economics. Y a-t-il encore de la vie en dehors de l'IA sur les marchés, Sophie? Autrement dit, comment est-ce qu'on gère le poids de cette thématique dans des portefeuilles globaux, comme chez Dorval Asset Management? Et au-delà du poids, comment est-ce qu'on gère la volatilité grandissante de ce thème autour du segment des semi-conducteurs? Et là où les rotations permanentes qu'on peut avoir. Au mois de juin, il valait mieux avoir des semi-conducteurs que des Mag 7, par exemple. Depuis quelques jours, c'est un peu moins évident. On a l'impression qu'il y a un retour quand même aussi vers des sociétés peut-être de logiciels ou ces fameux hyperscalers qui sont les chercheurs d'or, contrairement aux fabricants de pellets de pioche qui sont plutôt chez les semi-conducteurs. Comment on gère ce thème de l'IA à ce stade?
Alors, la question est large. effectivement, donc l'approche qu'on a, effectivement, vous le savez, c'est une approche extrêmement diversifiée et on travaille l'équipondération. Donc je dirais que c'est déjà une partie de la réponse. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois exposé aux semi-conducteurs, à la fois aux hyperscalers et à la fois à tout un tas d'autres choses. C'est toujours le principe de base de la gestion, c'est-à-dire diversifier, séparer. Mais plus spécifiquement, si je me concentre sur la question de l'infrastructure de l'intelligence artificielle, puisque c'est de ça dont on parle, c'est vraiment la question des investissements des hyperscalers et de ceux qui construisent les semi-conducteurs en faisant partie. On a là un mouvement effectivement de prise de bénéfices sur les semi-conducteurs qui se traduit par une baisse assez notable du SOX, mais 15% pour le SOX, c'est rien du tout. Voilà. Donc c'est une respiration.
Plus 120% depuis le début de l'année.
Voilà, puis c'est des mouvements qui se produisent assez régulièrement. Donc on est dans une phase de respiration. Moi, ce que je trouve extrêmement difficile aujourd'hui, c'est de mettre un prix. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui a énormément porté le marché, c'est la mémoire. Mmh. La mémoire, donc, c'est dans les semi-conducteurs, ce qui va permettre, effectivement, de conserver la mémoire. Et la question que, historiquement, c'est un secteur incroyablement cyclique. C'est-à-dire que c'est des cycles qui sont très courts, de l'ordre de 18 mois à 2 ans. Mmh. Or, avec les carnets de commandes qu'on a aujourd'hui sur les producteurs de mémoire, qui sont en plus un oligopole extrêmement concentré, on a des carnets de commandes qui vont jusqu'en 28-29.
Ouais. Qui sont solides.
Alors, voilà, donc c'est un peu le cœur de la question. Mais donc, les valorisations des acteurs aujourd'hui, surtout les acteurs coréens, puisque la valorisation de Micron s'est déjà un peu revalorisée, mais disons que ça continue à se payer 6, 7, 8 fois.
Ouais.
Donc en fait on se dit mais pourquoi est-ce que ça se paye si peu cher? Ça se paye si peu cher parce que normalement
c'est des cycliques, très cycliques.
Donc on peut pas considérer la valorisation mais plutôt les profits. Or SK Hynix, donc qui est l'acteur dont Pauline parlait, qui va se coter à la fin de la semaine au Nasdaq, va atteindre un pic de profitabilité au Q2 de 91%, ce qui c'était absolument jamais produit. Et ça traduit le fait que la demande était très très nettement supérieure à l'offre jusqu'à maintenant. Mais on le sait, cette bulle, c'est pas une bulle des valos, c'est une bulle des profits, cette bulle des profits, elle peut pas être réellement durable, puisque dans le même temps, ces gens-là doublent leur capacité de production. Donc, à horizon 2028, il y aura eu un doublement, effectivement, de la capacité de production. Donc, la question maintenant est, la question que vous venez de poser, est-ce que c'est solide? Est-ce que cette demande, elle est solide?
Ils ont l'air de dire que les pratiques ont changé, justement, entre les clients de ces sociétés d'équipements technologiques et de semi-conducteurs.
On paye des
acomptes,
voilà.
Les contrats sont plus solides,
plus longs,
et donc il y a quand même l'idée que le cycle très court auquel ces entreprises faisaient face jusqu'à présent reste un cycle, mais un cycle peut-être un peu plus long quand même.
C'est ça, qui est un petit peu plus long. Mais c'est toujours c'est toujours le problème des investisseurs, c'est-à-dire qu'on a tendance à tirer un trait sur une tendance et on valorise en fonction de. Et bon, on en a parlé plusieurs fois, je me souviens pendant le Covid, on avait parlé de Netflix. Ce sujet revient régulièrement sur un certain nombre d'acteurs. Alors comment on l'aborde nous aujourd'hui? On l'a abordé, on considère quand même que le thème est chaud. vraiment, que ce soit en termes de positionnement, que ce soit en termes de pratiques boursières, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'ETF leveragés qui se sont lancés, notamment sur la Corée. Enfin. Donc c'est un sujet qui est devenu un peu chaud, un peu compliqué.
On traite plus les ETF leveragés single stock que les stocks elles-mêmes. Hein. Voilà. Sur le marché coréen, en tout cas, sur du SK Hynix, Samsung, c'est très très visible. Exactement. Le poids des ETF corrélés à ces valeurs-là est X fois plus important que le poids, enfin le traitement de ces seules valeurs boursières.
Ça explique aussi que maintenant, le marché coréen, c'est le marché le plus volatile au monde. Ouais. Là, la volatilité sur 30 jours, j'ai regardé tout à l'heure, était à 73.
Oh là là.
Ce qui est vraiment... Bon, voilà. Donc, c'est très difficile de traiter dans ces conditions-là. Donc, nous, on a eu plutôt tendance à se couvrir un peu et à réduire un petit peu le risque. Et ça, c'est logique. En construction de portefeuille, en fait, le poids qu'on va avoir en portefeuille va être quelque part, va être pondéré en fonction de la volatilité qu'on peut supporter sur un investissement.
La diversification paye, vous parliez de l'équité pondérée. Alors, depuis un mois ou deux, ça paye.
Absolument. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, la baisse du cours du pétrole a permis une diffusion.
D'accord.
Donc, effectivement, les acteurs de l'infrastructure, de l'intelligence artificielle, continuent à plutôt bien se comporter, même si là, il y a une respiration. Mais c'est la diffusion qui a été intéressante à regarder. Et notamment, il y a eu un retour en faveur des banques. Les banques, qui est un autre de nos paris assez forts, puisqu'on considère qu'elles sont toujours extrêmement attractives.
Et les banques qui offrent une vraie décorrélation par rapport au thème de l'IA, parce que c'est l'autre question, hein, Thierry, je vous la fais suivre, mais tout devient corrélé à l'IA d'une certaine manière.
Alors oui et non. Les banques européennes moins que les banques américaines, quand même. Mais bon, à partir du moment où on est une courroie de financement d'un pan de l'économie, on peut pas considérer qu'on n'est pas du tout corrélé à ce pan de l'économie. Ouais. Mais aujourd'hui, le gros...
Donc ça peut être via l'exposition au crédit privé, des choses comme ça, qui sert à financer aussi ces infrastructures.
Mais c'est moins le cas sur les banques européennes, par exemple, que sur les banques américaines.
Tiré sur la gestion du thème de l'IA, et la question était, est-ce qu'il y a de la vie en dehors de l'IA, ou en tout cas, comment on met en œuvre une diversification, sachant que, et on le verra avec la macro, tout nous ramène à l'IA aujourd'hui. Alors, les semi-conducteurs, les logiciels, les hyperscalers, l'énergie, peut-être la santé demain aussi sera bouleversée par l'IA, etc. On a l'impression que c'est quand même un point de convergence qui unit beaucoup de secteurs aujourd'hui. Et donc, trouver de la décorrélation, c'est peut-être moins évident quand on fait face à une technologie comme ça qui se diffuse aussi largement.
Tout à fait. On va voir juste un tout petit point macro, même si c'est pas forcément ma spécialité. Non, mais vraiment très macro, là, justement.
Top-down.
Les fameux gains de productivité. Donc, c'est ça, la question, qui vont se déployer, à quel rythme, chez qui en tirera les bénéfices, les salariés, les actionnaires. Qui sera réinvesti directement. Bon, bref, il y a plein de questions. Quand on regarde l'histoire de ces cycles, le rail, le déploiement de l'électricité, etc., on voit que c'est quand même des cycles qui sont très longs. Donc il faut pas, il n'y a rien à attendre à très court terme. Donc, si par exemple, on se disait que tiens, les banques, puisque c'était le point dont on parlait avant, vont bénéficier, vont avoir des gains de productivité avec l'IA. Je pense pas que c'est un thème qui a été joué aujourd'hui sur les banques européennes.
Dans la valorisation des banques et a fortiori en Europe, il n'y a pas de dimension IA.
Non,
aux États-Unis, plus ils sont en avance. Après, il y a eu des annonces. Par exemple, ABN AMRO a annoncé il y a quelques mois qu'ils allaient supprimer 6 000 emplois sur plusieurs années, qu'ils allaient remplacer. Donc, on commence à voir les éléments. C'est pas d'un point de vue purement boursier. Ça augmente les profits et donc il y a un effet positif qui, quand même, aide un petit peu le secteur, mais il n'y a pas d'emballement, c'est juste sous-jacent, et puis on attend donc une diffusion lente. Néanmoins, ça c'est le cadre posé. Par exemple, nous, là, pour répondre à la question, comment faire face à ce marché, effectivement, qui semble être un entonnoir, tous les chemins mènent vraiment... Finalement, quand on regarde... Je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais c'est vrai que quand on regarde un peu les thématiques diverses et variées, y a plein de choses qui clignotent vert chez nous et qui nous semblent assez loin de l'IA. Donc, je reviens à mon histoire des banques. Ouais. Par exemple, les banques italiennes, C'est une très belle tendance. Aujourd'hui, on ne voit rien qui casserait ça. On se reparlera dans quelques mois.
Ouais.
Ça aura peut-être changé, mais en tout cas, voilà. Et a priori, on se dit quand même, sur les banques italiennes, on a d'autres thématiques, d'autres leviers que purement l'IA. Il y a alors, vous allez me dire, c'est un peu lié. Les satellites, l'espace en Europe, il y a une thématique qui commence à émerger, qui se comporte bien. Après, il y a les questions très chaudes que nous, on regarde le luxe, donc moins 40. Donc là, oui, il y a un effet richesse qui doit avoir des impacts, mais bon, on va se dire que c'est quand même pas du tout les mêmes histoires. Et surtout, on sort de 45% de baisse en ligne droite en 3 ans, qui a été pratiquement intégralement couverte par la baisse des résultats. Donc, dit autrement, on se paye aussi cher ou aussi peu cher qu'il y a 3 ans. Donc, le cours a baissé de 45%, mais il y a une révision du même ordre.
Des perspectives bénéficiaires.
Des bénéfices. Voilà. Et là, bon, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission. On attend, en tout cas, mon message, c'est de dire on regarde évidemment toujours la saison des résultats, on regarde ce qui se passe sur le luxe, notamment en Europe. On aime bien savoir un peu ce qui.
Mais c'est dans la watchlist.
C'est dans la watchlist, là. Il semblerait que la séquence est vraiment affreuse. Hein, quand on regarde trimestre par trimestre, que ce soit le chiffre d'affaires, les résultats. C'est vraiment, ça a été pénible.
Je crois les derniers calls qu'il y a eu, c'était quoi, Kering, je crois.
Oui.
Enfin voilà, le titre a pas du tout aimé call de préparation qu'il y a eu avec les analystes dans la perspective des prochains résultats. Hein.
Exactement. Donc je dis pas que ça, mais notre boulot quand même, on peut se dire, c'est essayer d'acheter des titres pas trop chers ou qui sortent d'une phase.
Et vous dites, c'est quand même le moment de regarder aussi ce qui se passe en dehors de l'IA.
C'était simplement prendre la peine de regarder. C'est vrai que c'est en plus intellectuellement, c'est intéressant. Il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup de secteurs qui commencent les uns après les autres à être touchés. Donc ça nous prend beaucoup
De la bande passante.
D'accord. Mais donc il faut faire l'effort de regarder d'autres secteurs un peu délaissés ou qui émergent. Et là, on voit des trucs très sympas et en tout cas qui nous semblent être des bons éléments de protection si d'aventure il devait y avoir un retournement qu'on ne maîtrise pas, là, pour le coup, qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, clairement. La vague IA reste quand même puissante. Et puis, pour les oiseaux, ceux qui auraient vraiment qui voudraient voir le verre à moitié vide et être très pessimiste, moi je dis juste Nvidia. À un moment, on est monté à 85 fois les résultats et les gens se disaient c'est n'importe quoi, ça y est, on est reparti. Et puis finalement, tout s'est normalisé. Aujourd'hui, Nvidia se paye un niveau de valorisation très attractif. La croissance reste là. Et nous, dans nos scorings, donc on score toutes les sociétés au niveau mondial et au niveau européen. Et donc, c'est la première société
qui sort.
Sur les États-Unis plus spécifiquement, elle a un score de 100 top. Donc bon, après je ne dis pas qu'on je dis pas qu'il faille acheter Nvidia, mais
c'est pas un conseil ou une décision d'investissement.
Oui, c'est ça. La valorisation.
C'est un constat.
Il y a de la croissance, la qualité du bilan, et puis ça a été un acteur vraiment, le premier acteur de ce qui s'est passé sur l'IA. Et finalement, le cycle se passe pas si mal que ça et on continue de gagner de l'argent.
IA et macro, parce que là aussi, ça devient un sujet macro, bien sûr, Anthony. Où est-ce qu'on en est de la réflexion? Alors, on a eu le rapport emploi américain. Est-ce qu'on voit sur la partie américaine, mais on peut regarder les choses du point de vue européen aussi, j'imagine, Anthony, est-ce qu'on voit déjà un impact sur l'emploi, nos emplois de cette diffusion de l'IA, et puis la perspective de rentabilité des investissements à travers la question de la productivité? Et quand on a écouté un Kevin Warsh ou à Sintra, ou à l'occasion de sa première conférence de presse suite à la réunion de la Fed du mois de juin, le nouveau président de la Fed, qui est pourtant un croyant du choc de productivité lié à l'IA, quand on l'écoute ou quand on l'entend répondre à des questions, le timing n'est pas clair. C'est-à-dire, il ne dit pas le choc de productivité, c'est maintenant, il dit ça viendra. Le timing, il ne s'y engage pas non plus. Hein.
Je suis complètement d'accord. Alors, je vais revenir sur la partie productivité et le lien emploi-IA, parce qu'il n'est pas clair. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes études des deux côtés. mais peut-être un point qui est paradoxal, c'est... Il faut bien voir que ce qui fait la réussite du modèle américain, ce sont des paramètres, des éléments qui sont inacceptables en Europe. C'est-à-dire, c'est basé sur les inégalités, le fait que les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines tirent la croissance. C'est basé sur le fait que les sociétés sont incroyablement profitables, avec une déformation du partage de la valeur ajoutée en faveur des entreprises, ce qui leur permet d'investir dans des proportions inimaginables. Quand vous regardez l'écart de dépenses de R&D fait par les entreprises américaines et les européennes, c'est juste de 1 à 2, voire de 1 à 3. Donc ça leur permet d'être toujours plus à la frontière, là où on est toujours plus derrière. Et c'est une flexibilité du marché du travail qui leur permet de virer les gens quand ils sont plus efficaces et de faire des gains de productivité. Parce qu'on nous dit souvent, par exemple, dans l'appareil d'État, on peut faire plein de gains de productivité avec l'IA, mais est-ce qu'on va accepter de les faire en Europe? Je ne connais pas beaucoup de collectivités locales en France qui vont accepter de réduire leurs effectifs pour réaliser les gains de productivité. C'est ça, parce que ça va devenir un problème politique. Les gains vont être à portée de main, mais est-ce qu'on va les réaliser? Là, c'est pas sûr du tout. Et donc, ce qui fait la réussite du modèle américain n'est pas, malheureusement, on peut pas l'importer en Europe. Et notre modèle, qui est probablement très vertueux, mais ne trouve pas de chemin pour parvenir à revenir à la frontière technologique. Ouais. Alors, il y a un autre modèle, le modèle chinois, mais qui est très différent et qui essaie de concurrencer avec d'autres méthodes, les États-Unis. Mais on voit bien qu'on est en train de sortir du jeu parce que, par croyance idéologique, mais qui peut se défendre en plus, hein, sociétalement parlant, c'est probablement bien plus souhaitable d'être en Europe qu'aux États-Unis. Mais la réalité, c'est que le bilan des courses, c'est que c'est eux qui profitent vraiment de cette révolution technologique. Et pour l'instant, on est quand même bien en dehors de ça.
Dans ce monde-là, on est moins bien appareillé, que... D'autres zones économiques, oui, Chine et États-Unis.
On n'est ni dans la course à la production de l'IA, donc on n'a pas de géants ou de producteurs, que ce soit d'ailleurs en amont comme en aval, hormis ASML, mais qui est un cas un peu particulier.
L'exception.
Et en plus, on ne va pas bénéficier de la diffusion des gains, puisqu'on va aller beaucoup plus lentement que probablement les États-Unis ou la Chine. Donc ça, c'est un énorme problème. Sur la question de l'emploi, justement, j'ai plutôt tendance à penser quand même, avec des séries les plus agrégées possibles, donc qui font pas bien le lien de causalité, mais je trouve que la corrélation marche bien et probablement en dit long, c'est quand même tous les secteurs américains, quand on le regarde à un niveau fin dans la tech, l'emploi est en train de décrocher alors que l'activité explose. C'est pas complètement évident de se dire, est-ce que même si l'IA n'était pas là, ils auraient pas réduit la voilure quand même. Je pense que cette corrélation-là vaut causalité. Et même s'il y a des études très fines au niveau micro qui montrent que, par exemple, les entreprises qui ont le plus intégré l'IA continuent de recruter, je pense qu'elles, elles auraient encore plus recruté s'il n'y avait pas eu l'IA.
Ouais.
Donc, je crois plus en la corrélation macro que les études très micro à ce stade. Mais honnêtement, je trouve que le débat n'est pas tranché. Et sur la productivité... Oui, probablement les gains les plus importants vont venir demain, mais la productivité américaine, elle est quand même sur des rythmes qu'on ne peut qu'envier, quoi. Donc, je veux dire, pour un pays développé, mature, avoir des gains de productivité qui sont deux fois ceux de l'Europe, bon, vous faites 10 ans...
Même en intégrant les révisions qu'on a pu avoir sur la croissance française, etc., il y a quand même des gains de productivité chez nous. Ils sont pas nuls.
Ils sont pas nuls, mais vous voyez, quand on est à 1,5, on est au bout du monde.
C'est pas le même monde.
Eux, à 3, ils sont à l'aise, quoi. C'est quand même quelque chose de très particulier. Et ça, dans la durée, c'est juste terrible, parce que ça va créer quand même des différentiels de compétitivité qui sont difficilement gérables. Donc, pour l'instant, ça justifie. Puis, dernier petit élément rapidement, c'est que les Américains vont pouvoir solvabiliser quand même leurs investissements par le marché européen. Parce qu'honnêtement, on ne va pas être au rendez-vous de l'affaire. Donc la réalité, c'est qu'ils auront leur marché qui est juste énorme et le second plus grand marché du monde qui est l'Europe. Parce qu'on ne va pas tomber dans les bras de la Chine. C'est trop coûteux, même politiquement. Donc ils ont quand même la bénédiction que sont la solvabilité des ménages européens.
Donc la souveraineté est une fable?
C'est une belle croyance, mais pour l'instant, on ne met pas en tout cas les ingrédients en œuvre pour y arriver.
Ouais. Bonne question. J'aime bien la souveraineté. Qui revêt par nature une dimension politique, hein, puisque c'est le retour de la primauté du politique quand même face à la rationalité économique ou l'optimalité économique. C'est une réalité investissable où on est dans le domaine de la fable politique, comme vous avez dit, ou de la croyance. Est-ce qu'il y a une réalité en matière d'investissement? On peut parler du secteur de la défense, qui a été évidemment la première dimension, le premier socle de cette quête de souveraineté en Europe, depuis notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça a bien marché 2 ans. Là, on voit que le secteur de la défense est confronté à des vents contraires un peu plus forts.
Alors, je partage complètement la lecture des choix de la problématique des choix sociétaux. L'Europe a fait des choix sociétaux qui sont d'une autre nature et qui nous handicapent dans cette course. Mais je trouve quand même, et alors c'est une porte que j'ouvrirai pour la suite de la discussion, qu'on a quelque chose à jouer, notamment sur la mobilisation de l'épargne, et que les langues se délient, notamment sur la réforme des systèmes des retraites. Puisque Merz a fait bouger donc le chancellor, enfin le chancelier, ouais. Le chancelier allemand a fait bouger les lignes sur la question d'un pilier de capitalisation dans dans les retraites allemandes. Ça va être un sujet hautement abrasif en France aussi, mais qui a été abordé par un des candidats. Et il y a une prise de conscience quand même que on va l'union monétaire qui est prévue par la BCE, qui va aider les banques à titriser, donc à financer une partie des investissements, n'est pas suffisante. En revanche, on a une manne absolument colossale qu'on peut aller effectivement aller chercher pour gagner un peu, tout en continuant à protéger notre système. Donc, il y a quelque chose à aller chercher. Et du coup, je serais un tout petit peu moins pessimiste. Et je rebondirais donc, sur la question en vrai, la vraie question.
KNDS qui doit s'introduire en bourse, enfin, qui devait s'introduire. Non, mais c'est quand même l'introduction qui doit être symbolique de ce. La défense européenne, les particuliers ont interdit interdiction d'y souscrire.
Absolument.
Alors qu'on va pouvoir souscrire au slip français, à tout le reste.
Oui. Mais c'est important, là.
Mais quand même.
Mais... Ça devient que Alex.
Non, mais ouais, voilà, oui, voilà.
Non, je plaisante. Mais bon, non, je suis complètement d'accord.
Quand même, un sujet sur l'épargne, l'allocation de l'épargne,
on a quelque
à travers
chose,
le levier des retraites.
Mais ce qui est vrai, c'est que ça, tout prend beaucoup plus de temps en Europe. Parce qu'on ne parle pas d'une voix, on parle de plein de voix, il faut se mettre d'accord. Mais il y a des choses qui bougent quand même. Sur l'investibilité du thème, de l'autonomie stratégique, parce que la souveraineté, c'est pas beau, de l'autonomie stratégique, ce thème est hautement investissable. Pourquoi ? Parce que, effectivement, la défense a été un petit peu décevante récemment, mais après avoir galopé à 200 à l'heure avant. Donc, les marchés font toujours ça, on annonce un truc, tout le monde se jette dessus, on achète ça en masse. Et puis derrière, il y a une réalité opérationnelle qui est que l'exécution est plus lente, que certes les carnets de commandes se remplissent, mais qu'on met quand même du temps, etc., etc., etc. Et là, comme c'est des investissements lourds, qu'il faut réorienter une partie de l'industrie, ce qui est en train de se faire en Allemagne, mais que tout ça prend du temps, bien entendu, on est un peu déçus sur le résultat. Bon. Alors ça, c'est un truc classique, donc prise de bénéfice sur la défense, peut-être qu'on va y revenir. L'autonomie stratégique, c'est plein de secteurs. C'est certes la défense, mais c'est aussi la santé, mais c'est aussi l'industrie, mais c'est aussi etc., etc., etc.
L'énergie,
bien entendu. La question de l'intelligence artificielle, il va falloir construire des data centers en Europe, mais ça crée beaucoup d'activités, mine de rien. On a quand même un acteur, alors on verra comment il tire son épingle du jeu, mais il est évident que pour des questions de souveraineté, et là je donnerais bien le mot souveraineté, on va quand même avoir envie de porter davantage un Mistral. On ne va pas mettre un tropique chez nous, je ne pense pas. En tout cas, pas au niveau d'État. Donc, il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui se font. Et du point de vue de l'investissement, donc, il y a plein, en fait, de sujets qui sont investissables. Mais par contre, il y a beaucoup de rotations. Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que l'histoire de la défense a été... Et le plan allemand, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, l'histoire de la défense est quelque chose qui a été annoncé et puis qui déçoit un peu dans la réalisation parce que ça prend du temps. Le plan allemand, même jeu, hein. L'an dernier, c'était l'histoire qu'il fallait à tout prix avoir en portefeuille. Cette année, c'est à moins 12 et quelques, enfin, si on prend les valeurs du plan allemand, à l'exception des banques, bien sûr. Et puis, et ainsi de suite. Mais là, on voit effectivement que les lignes sont en train de bouger en Allemagne aussi, annonce de baisse d'impôts, etc. Donc, en fait, le problème, c'est que le marché va très vite, l'Europe va lentement. Donc, il y a une adéquation qui doit se trouver, mais qui se fait. Ouais. Ce que ça veut dire pour l'investisseur que nous sommes, c'est que c'est des thèmes longs, c'est comme la transition.
Bien sûr.
Les clean tech, on a vécu ça. C'est un peu des boom and bust boursiers.
C'est pas ce qui élève notre potentiel de croissance de manière immédiate. C'est logique d'investissement dans la défense. Ça prend du temps. Les multiplicateurs sont pas si évidents.
Oui, ça prend du temps, mais c'est de la commande publique. Une fois qu'on a quand même réévalué, j'allais dire, la marge d'escalier sur ce qu'on va mettre en plus, on va pas faire monter les dépenses de militaires à l'infini. Donc, une fois que ça a été quand même repricé, c'est compliqué d'aller chercher beaucoup plus haut. Donc, il y a aussi ce phénomène-là. C'est pas comme une dynamique privée où, au fond, il y a des effets multiplicateurs entre entreprises. On touche aussi, au bout d'un moment, le plafond de cette affaire.
Mais c'est ça, donc effectivement, et donc il y a des rotations entre les thèmes, les gens ont été un peu déçus sur l'exécution, mais finalement ça a bien consolidé, du coup ça redevient à nouveau plus intéressant, etc. Et donc nous, investisseurs, on travaille dans ce monde-là.
D'accord.
Mais cette rotation offre aussi des opportunités, et on s'inscrit quand même dans une recherche dans le temps long pour l'Europe. Donc il y a quand même des choses à aller chercher. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a quand même des fleurons dans un certain nombre d'industries, d'entreprises multinationales qui, pour le coup, bénéficient des avancées sur d'autres marchés. Donc, il y a quand même des choses à faire.
Parlons de nos fleurons et de l'autonomie stratégique. Le deal emblématique du jour, c'est donc Exail, après avoir rompu les discussions avec Safran ce week-end, qui rebondit avec Thales. C'est Thales qui va racheter Exail à la famille Gorgé. C'est un bon deal. C'est un deal qui va dans le sens de la souveraineté. On a de la chance d'avoir des donneurs d'ordre comme Thales et Safran qui ont aussi les moyens d'acheter ce genre d'entreprise. parce que oui. l'autre choix, c'est que ces entreprises soient rachetées par des Américains, voire des Chinois.
C'est un bon dit, je ne sais pas trop. Ouais. C'est pas donné de ce que je comprends. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand
mais
même
une partie... Mais c'est ça l'autonomie stratégique. Il faut être capable peut-être de payer cher aussi non, des sujets stratégiques.
Je ne dis pas le contraire.
sans broncher.
Après, c'est un bon... sur le papier, c'est un bon dit. Ouais. C'est pas mal ce qu'ils font. Donc moi, je... si on met la valo de côté, je trouve que ça fait c'est plutôt smart et puis surtout bah, ça prouve qu'il y avait un intérêt puisque tout de suite on arrive à passer d'un potentiel acquéreur à un autre en un week-end. Ouais. La famille, je pense, s'en sort plutôt pas mal. Après, juste faut avoir en tête, c'est là on est quand même dans un cycle long. Hein, les approbations, c'est fin 2027 et le bid potentiel, c'est en 2028. Donc bon, on a quand même le temps. Il y a un déroulement assez long sur le dossier. Voilà. Et puis après, l'activité en elle-même, bah, on a vu l'actualité de ce printemps a mis ça sur le devant de la scène. Donc pour le sujet, la souveraineté, ouais. oui, évidemment. Pour Thales, oui, je pense que c'est un bon deal. Ça élimine un concurrent direct, donc c'est jamais mauvais. Ça reste en France. Si vous voulez, c'est quand même sympa. Je ne vais pas le sortir de ce contexte, ma phrase précisément, mais le secteur de la défense, 1 800 milliards de dépenses à venir d'ici 2035 en plus. Ouais. Donc là, on est à 2% de
budget.
De dépenses, de budget.
On passe à 3,5, hein,
3,5 plus 1,5 sur la sécurité au sens large en 2035. Donc la réunion de l'OTAN après réunion de l'OTAN, c'est confirmé. Bon, on verra bien. Hein. Donc il y a bien une contrainte des États.
Donc il y a des points d'entrée sur un secteur comme la défense. Voilà, vous dites, aujourd'hui, il y a des choses qui doivent.
En tant que. Enfin, je ne peux que souscrire à ce qui a été dit précédemment. Nous, on est des investisseurs longs. On est là. Ça n'arrive pas tout le temps, mais on essaye, tant que faire se peut, de ne pas subir, mais d'agir, c'est notre boulot. Donc, quand il y a des points d'entrée, bah, c'est plutôt là qu'il faut plutôt que se rabattre en disant, voilà, c'est juste pourquoi la baisse de la défense, 3 points. Rheinmetall avait pris 200% en un an.
C'est vrai.
Bon, donc Gloop, c'est un peu quand même, ça fait une belle performance. Les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie, ça a quand même un impact. Et puis Rheinmetall, qui est quand même l'égérie du secteur, qui a fait un profit warning, mais bon, des résultats très so-so au premier trimestre, donc ça a quand même mis aussi un petit coup. Mais bon, c'est voilà, il y a de l'exécution, on est dans le temps long. Mais pour nous, en tout cas, investisseurs, à la fois, bah. Je rejoins aussi le point de Sophie, c'est-à-dire que si on se dit que l'épargne devrait quand même être plus fléchée, parce que là, c'est des milliards, encore l'IPO de SpaceX.
J'ai plus de 85 milliards.
Ouais, mais combien de milliards d'investisseurs européens sont partis financer ça?
De toute façon, c'est 300 milliards par an qui partent de l'Europe pour s'investir sur les actions américaines.
Ça fait quand même mal au cœur. Et nous, notre boulot aussi, sans dire on est cocorico, absolument, il faut se battre. On est là pour faire de l'argent. Mais si on a des bons secteurs avec de la visibilité, des bons points d'entrée, comme c'est en ce moment, en tout cas, il me semble, bon, ça réconcilie. Et puis nos clients, même, on peut leur expliquer un ratio. Donc je pense que ça coche quand même pas mal de cases.
Ça implique d'être proche de la commande publique. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même entendu pendant longtemps les gérants m'expliquer que tout ce qui était trop proche du pouvoir politique, de la commande publique, c'était à éviter dans les portefeuilles. On ne voulait pas ce qui était trop réglementé, contraint, avec des prix fixés, des tarifications fixées, etc. Là, on est obligé de s'engouffrer dans ce... Et l'affaire Rheinmetall, où on voit que le gouvernement allemand est capable de changer de commande comme ça. Alors, pour un autre acteur allemand, ça reste en Allemagne, très bien. Mais il y a une volatilité de la commande publique qu'il va falloir aussi intégrer, j'imagine.
Vous avez... Non, mais vous avez raison.
C'est une séquence différente. Hein. Je crois qu'on est un petit peu... Enfin, malheureusement, l'histoire... on est un petit peu au bout de la globalisation heureuse. Hein. Et cette re-régionalisation vient aussi avec des enjeux. Et en Europe, mais comme en Chine, c'est pas un bon parallèle, mais en tout cas psychologiquement, on est quand même obligé de flécher un peu parce que sinon, les gens ne le font pas. Donc, il faut trouver un moyen d'emmener... Alors, c'est pas très confortable, le côté victime nationale, hein, c'est un petit peu comme ça, les services aux collectivités, etc. Mais malgré tout,
c'est difficile de dire à l'épargnant français européen qu'il se trompe en allant mettre son argent sur Nvidia, sur Micron, etc.
Il peut faire les deux.
Sur la commande publique, moi, quand même, je suis souvent d'accord pour dire que c'est pas une très bonne idée d'y être exposé, mais en même temps, qu'est-ce qui tient la croissance
oui,
en
c'est
Europe
ça,
aujourd'hui.
Il n'y a plus que ça.
Il n'y a pas de demande privée. Donc, à un moment donné, il faut quand même l'investir. Ouais. Vous prenez la France et l'Allemagne. Alors, la France est en quasi-stagnation si vous enlevez les dépenses publiques, donc c'est-à-dire conso public, investissement public. Depuis 2022, c'est quasi flat, le PIB. En Allemagne, c'est la récession si vous enlevez les dépenses publiques. Bon, bah, quand je vous dis ça, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher ailleurs. Mais oui, ça reste une bonne thématique, la défense. Moi, j'ai quand même peur, au bout d'un moment, que certains pays n'honorent pas forcément toutes leurs dépenses militaires. La France en premier, enfin, j'espère me tromper, mais...
C'est pas celle qui dépense le moins, quand même, en la matière. Hein.
Certes, mais on voit bien qu'à mesure que le déficit public va devenir un vrai sujet, parce qu'on va pas tenir non plus 10 ans à ces niveaux de déficit, au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. Et historiquement, on n'a pas forcément fait les choix qui portent la croissance potentielle, ou en tout cas qui garantissent notre souveraineté ou notre autonomie stratégique. Donc bon, je suis prudent. J'espère qu'on le fera, mais c'est quand même pas complètement gagné.
Il y a un chemin de crête qui n'est pas évident à suivre de ce point de vue-là, bah, puisque vous travaillez sur la France désormais, Anthony. Quels vont être les questionnements du marché au fur et à mesure qu'on va rentrer, alors dans la période budgétaire, mais au-delà de ça, dans la période électorale 2027, beaucoup d'investisseurs vont commencer à se demander à partir de quand est-ce que les marchés viennent mettre un petit coup de pression sur la France. C'est comme ça que la question va se poser.
Complètement. Bah, je pense que ça dépend des programmes politiques, mais il y a une attaque qui peut être très forte sur les entreprises. Parce que j'ai de la peine de le dire, mais on voit bien que quand même la majorité des partis sont quand même pas en faveur d'une politique de l'offre. Ça, c'est quand même un vrai sujet.
C'est ce qui s'est dit à Aix pour les politiques présents. La bataille culturelle a été perdue, la politique de l'offre, la bataille culturelle autour de la politique de l'offre a été perdue.
Complètement. Alors, on voit bien que, notamment, le Premier ministre essaye de revenir un peu en arrière, justement, en tout cas avec un discours un petit peu plus pro-entreprise qu'on a pu l'entendre jusqu'alors, mais ça ne suffira probablement pas, parce que quand vous regardez les partis en tête, ils ne sont pas spécialement en soutien des entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Si vous abîmez le tissu productif, ça se termine rarement bien. Et puis, il y a tout le sujet de la taxation, soit des hauts revenus et des hauts patrimoines, surtout. Et ça, au bout d'un moment, c'est quand même un mauvais cocktail. C'est-à-dire, si vous avez des partis qui sont en lead et qui veulent à la fois sabrer le tissu productif et attaquer de manière un peu déraisonnable, parce qu'on ne le voit pas dans le reste du monde, les hauts patrimoines, dans une proportion aussi importante...
C'est-à-dire que là, le marché ne va pas pouvoir se raccrocher à des alternatives pro-business qui lui permettraient de continuer d'espérer que la France puisse s'en sortir, etc. Là, il y a une offre politique, désormais, qui est majoritairement assez homogène sur l'idée qu'il va falloir aller prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les entreprises, chez les hauts revenus et chez les hauts patrimoines.
On a quand même la majorité
des... C'est le consensus, le dénominateur commun le plus facile à trouver.
Exactement. Il ne faut pas oublier qu'on a une classe politique qui aime les petites entreprises, mais surtout pas les multinationales. Pas de bol, qu'est-ce qui porte la France, les multinationales. Donc, et elles sont très mobiles. Donc ça aussi, c'est quand même pas un facteur de... Je vais être un peu cruel, mais les ETI allemandes, c'est plus dur pour elles de passer la frontière. Les multinationales françaises, au bout d'un moment, si quand même les conditions d'accueil sont pas bonnes, il y aura des arbitrages. Et ça, le marché peut pas l'ignorer indéfiniment. Donc à la fin, si votre pays il a plus son grand pilier, ça va devenir compliqué. Donc oui, on aura quand même de l'agitation sur le spread. Ça, faut quand même pas rêver. Surtout à l'issue du premier tour, en fonction de ce qui sort, il y a des configurations dans lesquelles on peut s'amuser un peu.
Ouais, bon. Donc oui, c'est quoi, 2017 hein, oui, 2017, où il y avait déjà eu le sujet du spread.
Il y a eu 2017, où ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le spread bouger aussi fortement, et puis le grand épisode
de la dissolution. Spread, oui, bien sûr.
Il faut remonter dans l'histoire, sinon c'est Mitterrand, la grande
80.
Période exactement,
ah bah bien sûr,
où
les chars russes et tout ça.
Là, on avait vu des choses assez amusantes sur les marchés.
Bon, il nous reste quelques minutes. On parlait du M&A avec Exail et Thales. Il y a une autre opération aujourd'hui là, qui vous intéresse, Thierry, c'est autour d'EasyJet. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette opération là?
Non, mais simplement, Pauline l'avait dit en introduction, donc c'est au cinquième bid, l'acquéreur arrive à ses fins. Enfin, pas tout à fait, puisque le prix est en dessous de l'offre. Donc ça veut dire quand même que le marché ne valide pas complètement l'opération. Pauline l'avait signalé,
Il y a un risque.
Il y a un mois pour que les choses soient posées clairement sur la table, pardon. Donc on verra bien. Et puis, en fait, le secteur de l'aérien, finalement, qui est quand même pas forcément trop la darling des investisseurs, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, il a quand même des attraits et enfin les belles compagnies, je pense qu'EasyJet en fait partie, avec une flotte jeune, enfin dynamique, puis des vrais actifs qui sont les créneaux horaires, les slots, les aéroports, enfin donc tout ça c'est quand même tout ce qu'ils ont construit depuis plus de 20 ans. Les pilotes aussi, il faut les recruter, c'est quand même compliqué, il y a de la tension, un corps, enfin donc bref, donc je trouve que c'était intéressant de voir que c'était le sujet aussi, les actifs hors radar. Les investisseurs
qui veulent, de l'intérêt.
Veulent bien se donner la peine. Alors là, le problème, c'est que c'est un investisseur américain. Ah, bon, donc ça fait, c'est vrai que ça fait un tout petit peu peur de voir des transferts aussi de pépites européennes comme ça qui ont réussi à créer quelque chose une fois que c'est établi et qui profitent. Enfin, c'était l'argument du management d'EasyJet, c'était de dire bah voilà, on se prend le kérosène avec le détroit d'Hormuz et vous venez, donc on n'est pas du tout
Raffler
d'accord.
La mise.
Et finalement, quand même, au bout d'un mois de discussion, alors enfin, ils ont rajouté, hein, ils ont monté leur offre. Et donc, voilà.
Mais visiblement, il y a un réveil du M&A en Europe, je crois, à travers votre stratégie microcap, vous enregistrez un certain nombre d'opérations aussi depuis le début de l'année, c'est ça ?
Oui.
C'est plus d'une dizaine, peut-être, c'est ça ?
Non, quand même pas. Non.
J'ai pas vu ce qu'a écrit Sébastien Lagarde, votre cofondateur, mais il a communiqué là-dessus, parce qu'il y a encore une OPA il n'y a pas très longtemps, je crois, sur le fond.
Il y a des OPA régulièrement.
D'accord.
Enfin, on en a une par... tous les deux mois, on va dire, en moyenne.
Ouais.
Mais oui, par contre, le montant, enfin, le volume du M&A cette année, juste sur le premier semestre, est 1,5 fois supérieur à celui de 2025 toute l'année. Donc, il y a un vrai regain. Il y a des beaux actifs à aller chercher. Et c'est vraiment la thématique initiale de notre conversation. Qu'est-ce qu'on fait dans ce marché ? Il faut élargir au maximum, ne surtout pas se focaliser, diversifier le risque, c'est notre métier, mais voilà, se forcer à... Oui, il y a des titres qu'on aime bien, des darlings, on les garde, hein, mais on réduit progressivement, et puis si tout se passe bien avec les gains, bah, ça nous permet d'acheter une position pratiquement à zéro, hein, puisqu'on cristallise la plus-value sur autre chose, de préférence, et puis de recycler un peu tout ça sur des dossiers qui sont un peu moins sous l'œil des investisseurs, les 10 investisseurs ne manquent pas de trouver là où il y a de la valeur.
En termes de diversification géographique, est-ce qu'il y a des géographies particulières ? Alors, je pense à la Chine, par exemple, dans les émergents, en Asie.
Alors nous, on travaille plutôt quand même le Japon.
Japon.
Depuis maintenant pas mal de temps, et notamment sur le segment financier aussi, qui est extrêmement intéressant, où on voit... une impulsion qui est comparable à ce que vivent les banques européennes, hein, pour des raisons évidentes, taux d'intérêt négatif, puis retour à meilleure fortune, activité opérationnelle en amélioration, impulsion budgétaire avec Sanae Takaichi. Donc, tout
Et le niveau du yen vous pose un problème investir au Japon ou pas aujourd'hui ?
Alors non, pas réellement, parce qu'en fait, la façon dont on travaille, on capture quand même en ce moment, en tout cas dans les thèmes de marché, beaucoup de... grandes entreprises japonaises qui elles-mêmes sont quand même beaucoup des multinationales, hein, donc bénéficient du yen faible, mais c'est clair que c'est un facteur de risque. C'est plutôt un facteur de risque pour le monde obligataire, voire de diffusion de stress dans le monde obligataire. Mais non, on n'est pas particulièrement embêté sur cette question-là. On couvre le yen, hein, en grande partie, donc.
Ah oui, même encore à ce niveau.
On est couvert à moitié, en tout cas, sur nos positions en yen. Mais donc voilà, donc toujours un gisement qui est intéressant au Japon. Bon, la Corée, bien sûr, c'est à la mode, on en a parlé, mais là, on est plutôt en phase de réduction.
Décrétage.
Voilà, décrétage. Et après, il y a plein d'histoires qui sont, à mon sens, probablement hyper intéressantes, mais qui sont super compliquées, sortant du choc, justement.
Hormuz.
Sortant d'Hormuz, vraiment, il y a des...
Dans les émergents. Hein,
dans les émergents, c'est quand même la situation. Et même en Asie du Sud-Est, la situation
si
est quand même compliquée.
Pas les trades sur ces marchés émergents. Si on peut faire court, mais d'un mot, c'est pas ouvrir le débat, mais est-ce que la dernière marque d'inflation en zone euro permet à la BCE de refermer l'idée d'une hausse de taux en juillet ?
Sérieusement, si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Enfin, en tout cas...
Oui, si elle ne referme pas la porte à la hausse de taux en juillet.
Très honnête, rien ne justifie. Même
parce que pour septembre, on verra.
Son premier mouvement était déjà injustifié, tout le monde le sait, elle était obligée. Bon, il faudrait passer à autre chose. Mais peut-être que la gouverneure va peut-être s'engager dans le débat présidentiel. Elle l'a annoncé à Aix, problème.
Oui, effectivement. Comme quoi l'indépendance des banques centrales est un peu...
tout ça pour ça.
Comment dire ? Effectivement, c'est une indépendance qui marche parfois dans les... Enfin, pas forcément dans tous les sens. Bref, merci beaucoup à vous trois d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Anthony Morlet, Lavidali, Rexecode et BSI Economics, Thierry Leclerc, AlphaJet Fair Investors et Sophie Chevaudier d'Orval Asset Management.